Oui, allô, bonjour Daniel, bonjour tous les AMG. Alors concernant Israël et le massacre qu'ils viennent de faire sur la flottille d'humanitaires, je vais vous raconter tout simplement comment ça va se passer. Tout le monde va s'indigner, hein. Alors là, mais du secrétaire de l'ONU jusqu'à nos ambassadeurs et compagnie, tout le monde va être indigné, hein. Alors là, ça va être vraiment l'indignation générale, hein. Hein, même peut-être on va envisager certaines sanctions, hein. Et puis, comme par miracle, ils vont nous sortir une petite histoire de terrorisme, hein, sûrement, là, qui se préparait à New York ou je ne sais où. Hein, une petite histoire, il y a certainement un dérapage antisémite qui va se passer là prochainement. Hein, et puis, on oubliera tout ça. Hein, et ça continuera. Et Israël bénéficiera de l'impunité dont elle bénéficie depuis toujours, hein, s'autoproclamant les capitales qu'elle veut, les frontières qu'elle veut, et massacrant qui elle veut. Voilà.
Oui, bonjour vous tous. Je ne sais pas si j'aurai la force de dire ce que j'ai envie de dire, parce que dès qu'il y a une exaction de l'armée israélienne contre Gaza, et si on prend position, on vous dit qu'on est antisémite. Alors moi, je suis juive, et depuis 1948 que je plaide pour un morceau de Palestine, un morceau d'Israël. Alors, pas à peine qu'on me traite d'antisémite, moi, je suis juive, et je ne supporte pas ce qui s'est passé encore ce matin.
Eh bien voilà, bravo Israël, Israël, premier recruteur officiel et privilégié du Hamas et de tous les intégristes fanatiques islamiques. Voilà, avec son action de lundi matin, eh bien, Israël grandit chaque jour un peu plus le rang de tous ces fanatiques, alimente la propagande, alimente le creuset, le foyer de recrutement des organisations islamistes radicales, Al-Qaïda, le Hamas. Bravo.
Le comité de sécurité de l'ONU a enfin, et ça a été dur, hein, trouvé une déclaration commune concernant l'acte d'Israël. Nous vous la livrons en exclusivité. C'est pas bien, hein. Vilain, faut pas. Pas bien, hein. Faut pas recommencer, hein. Méchant, pas bien.
Bonjour à tous, je voudrais signaler aux AMG du Touarçais ou de passage dans la région, que le rendez-vous à notre café repère n'est plus le premier lundi du mois, mais le premier mardi. Donc, vous êtes bienvenus ce soir à partir de 18h, 18h30 au Café des Arts, 53 rue Saint-Médard à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Alors, bon courage à tous. C'était Marie-France.
Rebonjour Daniel, c'est Laurent, l'auditeur modeste et précaire de Nantes. Quelle est la réponse de Pôle emploi suite à ce que nous sommes en train de faire actuellement? Eh bien oui, le directeur régional de Pôle emploi nous envoie les hommes à la matraque, c'est-à-dire l'homme à la matraque. Là actuellement nous avons plusieurs fourgons de CRS qui tournent et qui n'interviennent pas pour l'instant, mais qui risquent d'intervenir d'ici quelques temps. Donc je vous tiendrai au courant. C'était Laurent, auditeur modeste et précaire de Nantes.
Amis des Cafés Repères, bonjour. N'oubliez pas que l'on se retrouve ce jeudi 3 à 20h30 au bar tabac chez Marco à Alban. La présence de chacun et de chacune est précieuse pour que vive ce lieu d'échange. Alors amis Tarnais et Aveyronnais, on compte sur vous ce jeudi 3 à 20h30 chez Marco à Alban.
Oui, bonsoir, c'est le Chambre sur Libre. Eh bien, on vous invite mardi 1er juin à 20h30 à l'Aquilon, à Saint-Bonnet, en Chambre-Sort, pour un café repère sur le thème des monnaies parallèles. Voilà, vous pouvez venir à partir de 20h15, 20h30, le débat. À demain, ciao.
Bonjour à tous. Prochain repère à Dijon, le 1er juin à l'annexe 47 rue de Vaude. Nous regarderons le Chomsky numéro 2, le pouvoir, puis débat. Attention, rendez-vous à 19h, c'est un peu tôt. On vous attend nombreux. Au revoir.
Oui, bonjour, on est le 9e collectif de sans-papiers, on occupe le Conseil de la francophonie depuis hier, 15h, on a passé la nuit ici, on est sur place presque une centaine, les portes sont ouvertes, si vous pouvez venir pour nous soutenir. On attend une délégation du ministère de l'immigration, parce qu'on a demandé un rendez-vous auprès d'Éric Besson, bien son conseiller. On a parlé avec le directeur du cabinet de M. Abdou Diouf hier, on a discuté avec lui, on attend une réponse pour aujourd'hui. Et merci, au revoir.
Oui, bonjour, je me présente, je suis un demandeur d'emploi de 43 ans, donc je suis habilité à passer de nombreux et multiples entretiens, et malgré ça, je n'aurai pas le profil, le CV correspondant à ce que je recherche. Bon, il faudra m'expliquer aujourd'hui par rapport à la retraite, qui évoquait les multiples débats faits sur la une des télés, journaux, médiatiques, comment il faut faire. Il faut m'expliquer, avant d'avoir la retraite, il faut avoir un emploi. Ça me tient à cœur ce sujet. Je suis comme des millions de citoyens, je cherche un emploi, je suis motivé, j'ai toujours les mêmes réponses, stéréotypées, les mêmes clichés. Quoi. Donc ça va, quoi, me dire un CV fragmenté, je suis technicien micro-réseau à la base. Ça fait 3 ans que je cherche dans le secteur, je suis toujours appelé à faire de l'intérim bouche-trou, et on nous parle de retraite, et voilà. Donc je me pose des questions à 43 ans, ce qu'il faut faire. Quoi.
Le repère de Cahors se réunit ce mardi soir, à partir de 19h30 au Barouf. En effet, on ne pourra pas aller au Mont-Saint-Cyr, on devait pique-niquer, mais comme il pleut, donc on se réfugie au Barouf, chez nos amis Véro et Rémi, nos deux soigneurs de coups de blues qui vous refilent la pêche. C'était Loulou de Cahors, et bougez-vous un petit peu les Cadurciens, il faut du monde.
Demain, le repère de Tréguier aura lieu comme chaque premier mercredi du mois, à 18h30, au bar des plaisanciers sur le port. Il aura pour thème médias, information et communication. Venez nombreux.
Je n'ai jamais vu une armée aussi démocratique et qui se pose tellement de questions morales. Eh bien, cette phrase a été prononcée le 31 mai dernier pour le journal Haaretz, la version en ligne du journal Haaretz, le grand journal israélien. Je n'ai jamais vu une armée aussi démocratique qui se pose tellement de questions morales. Et celui qui a fait cette réflexion, c'est un intellectuel français, Bernard-Henri Lévy. On connaît la suite, ce qui s'est passé le lendemain. Voilà, un intellectuel français. Voilà pourquoi aujourd'hui, à nouveau, nous, là-bas si j'y suis, nous retrouvons un intellectuel américain qui s'appelle Noam Chomsky et avec qui on va discuter de syndicalisme, avec des syndicalistes français. C'était une rencontre que nous avons organisée dimanche soir à la Maison des Métallos à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud, avec certain nombre de syndicalistes, non pas représentatifs de l'ensemble du syndicalisme français, mais quelques-uns que nous connaissons, dont nous apprécions, ou dont nous intéressons à leur démarche, qui est une démarche non seulement, évidemment, de lutte pour la défense et des salariés, bien sûr, mais avec un horizon politique, disons, un horizon d'émancipation de tous, à commencer, bien sûr, par les salariés. Donc, voilà, on va retrouver la suite, on a commencé hier, la suite de cet entretien. Je signale également à nos fidèles amis qu'à l'occasion du passage à Paris de Noam Chomsky, il est d'ailleurs reparti ce matin vers Boston, nous, là-bas si j'y suis, avec les Mutins de Pangée, ont organisé une suite de projections du film Chomsky et compagnie. Et là, il y en aura une ce soir à Paris, dans le 14e arrondissement, au cinéma Les Sept Parnassiens. Vous voyez, c'est ce cinéma qui est sur le boulevard Montparnasse, je crois que c'est près du métro Vavin, non loin du métro Vavin. Donc voilà, à 20h30, au 7 Parnassien ce soir, Chomsky et compagnie, suivi d'un débat que j'animerai tout à l'heure. Voilà, donc en route pour Chomsky chez les métallos et avec les syndicalistes, tout de suite.
On dit qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc j'aimerais dire que c'est vrai, il y a eu les émeutes, ça a fait beaucoup de bruit, ça a beaucoup parlé. Mais il ne faut pas oublier aussi ce qui se passe derrière. J'ai une petite idée qui a émergé là, au sujet du chômage, du taux de chômage. Enfin, ce qui serait bien aussi, ce serait interdire les délocalisations. Donc ça éviterait les pertes d'emplois ici. Et au lieu de délocaliser dans d'autres pays, autant délocaliser dans les banlieues justement. Donc ça favoriserait l'accès aux travailleurs, aux ouvriers dans leur usine, sans pour autant partir à l'autre bout du monde.
I like very much the image of that a tree falling makes more noise than a forest growing.
J'ai beaucoup aimé l'idée de l'arbre qui tombe qui fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse.
And I hope you won't mind if I borrow it and use it in writing and speaking.
Et j'espère que tu m'en voudras pas si je te l'emprunte pour l'utiliser pour des discours et dans des livres.
I don't know how to give a footnote reference. But I think it captures the essence of what has happened through history and what has to be done.
Mais je pense que ça capture vraiment l'essence de ce qui s'est passé dans l'histoire et dans ce qui doit être fait aussi.
It's true that a forest growing doesn't make a lot of noise, but once it's there, people see it.
Parce que c'est vrai qu'une forêt qui pousse ne fait pas de bruit, mais quand elle est là, tout le monde la voit.
And it overcomes the noise of a tree falling.
Et qu'après, on n'entend même plus l'arbre unique qui tombe quand il y a toute la forêt.
And these are really good and exciting ideas. I'm glad to hear them.
Et je suis vraiment très content d'entendre ces bonnes idées ici.
And I hope you make that forest grow.
Et j'espère que vous allez réussir à faire pousser cette forêt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil à la traduction et toute l'équipe de là-bas si j'y suis, Chomsky à Paris. Flight number 2, arriving from New York. À Paris, il est de passage tous les 25 ans, donc c'était à ne pas manquer. On a essayé de suivre les différentes interventions, débats, dialogues de Noam Chomsky au cours de son séjour, que ce soit avec les linguistes les plus affûtés, on va les voir avec des syndicalistes là, avec des jeunes d'un lycée à Clichy-sous-Bois, avec les chercheurs du Collège de France, sur une quantité de registres. Noam Chomsky a répondu aux questions, aux sollicitations, et a exposé aussi son point de vue, notamment samedi après-midi à la Mutualité. Il a fait un vaste tour d'horizon de la situation sur la planète actuellement. Et hier soir, il était l'invité de Tadei et il a pu s'exprimer sur ce qui s'est passé, cette agression de l'armée israélienne contre les flottilles de Free Gaza. Voilà, quelques aspects de cet intellectuel. On connaît moins effectivement l'intérêt qu'il porte au syndicalisme, et c'est depuis très longtemps, puisque Chomsky est un des membres du IWW, un syndicat légendaire aux États-Unis. Il dit qu'il est un des 10 membres, c'est dire si ce syndicat est assez réduit aujourd'hui, même s'il y a une certaine renaissance. Il nous a expliqué hier comment, s'il était membre de ce syndicat, c'est que son père l'était aussi lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, à New York, avec une valise et une ficelle autour. Et il a entendu des gars qui parlaient de la défense des travailleurs. Il s'est inscrit à ce syndicat sans savoir exactement ce qu'il était, quel était ce syndicat. Voilà, donc inscrit à ce syndicat de père en fils. On va discuter donc avec les uns et les autres, à la fois donner la parole à des syndicalistes hors des revendications, c'est comme ça qu'on les entend habituellement, mais là quand même un peu plus de réflexion sur leur donner l'occasion de s'exprimer sur leurs aspirations, sur leur lutte, la raison de leur engagement bien souvent, et puis les réflexions et ce que Chomsky peut leur répondre. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Chomsky au métallo. Je vais vous présenter Agathe Martin, qui est ouvrière dans une usine d'Aulnay-sous-Bois qui s'appelle PSA, qui est une usine automobile. Et on a eu l'occasion de rencontrer Agathe, l'équipe de La Basse J'y suis, il y a 3 ans maintenant, alors que les salariés étaient en grève et avaient organisé une grève offensive, c'est-à-dire une grève de revendication sur l'augmentation des salaires, de 300 euros pour tous chaque mois, de la retraite à 55 ans et de l'intégration d'un certain nombre d'intérimaires. Je crois même que c'était tous les intérimaires qui étaient
Oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que quelques-uns.
Voilà, c'est ça. C'est une grève qui a duré 6 semaines, qui a eu une certaine médiatisation à l'époque, en tous les cas dans la base où j'y suis. On avait fait le portrait d'Agathe, le portrait d'une ouvrière syndiquée. Une femme peut être syndiquée, mais c'est une femme aussi. Donc on avait fait ce portrait, c'est Pascal Pascariello qui avait fait ce portrait. Donc on s'est rencontrés de cette façon, on avait été intéressés par le fait d'une grève offensive. Mais bon, quels ont été les résultats au bout de 6 semaines, effort énorme, quels ont été les résultats? Alors il y a les résultats directs, indirects. J'aimerais qu'Agathe nous parle de ça, et puis qu'elle nous parle aussi des relations entre les syndicalistes et les intellectuels. Mais d'abord, le bilan un peu de cette...
Même si on n'a rien obtenu pendant cette grève, collectivement, on a appris à militer ensemble, à résister à l'exploitation, à réclamer notre dû quand même. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous retirer. Ça reste dans l'usine et dans nos têtes. À comprendre quelle est aussi la force motrice de l'histoire. Voilà, c'était pour nous aussi un moyen de voir ça, que quand on se bat collectivement, on peut obtenir des choses. Disons qu'on peut faire un constat sur la pénibilité du travail, sur l'exploitation dans le monde, sur la misère qui existe dans le monde, sur l'organisation économique aujourd'hui. Comment le monde est organisé, c'est complètement irrationnel, complètement aberrant. Et tous les intellectuels qui se posent des questions aujourd'hui, c'est pour défendre ce système capitaliste. Moi, j'ai pas envie de défendre ce système capitaliste. Je pense que on voit les aberrations de ce système, les banquiers qui n'arrivent même plus à gérer leur banque parce qu'ils ont trop d'argent, enfin, ça devient complètement fou. Il y a toute une partie de la population qui meurt de faim alors qu'on est dans une société de surproduction. Alors tout ça, c'est complètement irrationnel, complètement aberrant. Et alors, pour faire le constat et dire que ça va pas, oui, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, beaucoup d'intellectuels qui réfléchissent là-dessus. Mais maintenant, puisque cette société est en crise, comment on va faire pour mettre en place une autre société? Puisque le système capitaliste, il a montré qu'il n'était pas capable de gérer l'économie, comment on va faire pour montrer qu'on peut changer le monde? On se rend compte quand même que c'est la classe ouvrière qui est capable de changer le monde. Bon, visiblement, on est d'accord quand même sur ce point-là. Et ben, pourquoi tous ces gens qui se posent des questions sur comment on va pouvoir changer le monde, ils ne parlent pas de cette classe ouvrière? Pourquoi les intellectuels, justement, ils n'utilisent plus ce vocabulaire de la lutte de classe, tout ça? Bon, c'est ma classe sociale, hein, la classe ouvrière. J'y milite tous les jours. Ces questions sur l'organisation de la société d'aujourd'hui, c'est des questions qu'on se pose dans nos ateliers au quotidien. On discute, forcément, on discute de la crise économique. On discute aussi de l'exploitation. Cette exploitation, on la ressent quand même dans notre chair. Hein. Être accroché à la chaîne 8 heures par jour, c'est difficile. Ça, voilà. Et quand on se met en grève, ben, on se rend compte qu'on a des choses à dire sur l'organisation de la société. C'est nous qui faisons tourner les usines. C'est nous qui faisons cette production dans le monde entier. Et au final, c'est soi-disant des intellos qui gèrent le monde pour nous, mais ils ne sont pas plus capables que nous, quoi.
Les réflexions de Noam Chomsky.
As you said, I agree with you.
Comme vous l'avez dit, je suis d'accord.
But I don't think we should be surprised by the role that intellectuals are playing.
Mais je pense pas qu'il faut être surpris par le rôle que les intellectuels jouent.
They're basically playing their class role.
Parce que c'est leur rôle de classe.
This was explained 150 years ago by Bakunin.
Ce qui a été expliqué il y a 150 ans de ça par Bakunin.
He pointed out that he discussed what he called the rise of the scientific intelligentsia.
Et parce qu'il discutait justement la montée de l'intelligentsia scientifique.
Meaning intellectuals who sort of appropriate the skills and the technology and the techniques of management and control and the academy and factories everywhere. They take it for to themselves.
C'est-à-dire des intellectuels qui prennent à leur compte toutes les techniques développées pour le management, pour le contrôle dans les usines.
And he said that they're a new class.
Et Bakunin disait que c'était une nouvelle classe.
And he made one of the few predictions in the social sciences that has ever come true.
Et il a fait une des rares prévisions qui dans les sciences sociales se soit effectivement réalisée.
So it ought to be taught in elementary school for
qui devrait donc être
that reason alone.
Pour cette seule et unique raison, ça devrait être enseigné dans les écoles élémentaires.
He predicted that the new class of intellectuals will go in one of two directions.
Et il a prédit que cette classe intellectuelle nouvelle prendrait l'une des deux directions possibles.
One direction is to try to exploit working class struggles to gain political power so that they will become what he called the red bureaucracy, which will be the most brutal and violent ruling class in history.
La première, ce serait d'exploiter toutes les luttes ouvrières et sociales pour pouvoir arriver au pouvoir et imposer ce qu'on appellerait une bureaucratie rouge, qui serait la pire du genre.
Yeah. The other path, if they perceive that working class struggles are not going to lead them to power, they will join the capitalist classes and become their managers, political, economic, and doctrinal managers.
Et l'autre option, qui consistait à dire que les luttes sociales ne les amèneraient pas au pouvoir, alors dans ce cas-là, le parti serait de prendre le parti justement des élites au pouvoir économique et d'être leur bras pour la gestion de l'exploitation capitaliste.
And in both cases, they'll speak of the virtues of democracy.
Et dans les deux cas, ils parleraient des vertus de la démocratie.
While they're in fact, nice phrase, beating the people with the people's stick.
Alors qu'en fait, ils sont en train de battre le peuple avec le bâton même du peuple.
Well, that's pretty accurate.
Et c'est
that's what's happened in the 20th century.
Et c'est ce qui s'est passé en tout cas au cours du 20e siècle.
And there's no reason to expect anything else.
Et il n'y a pas de raison d'attendre autre chose.
I mean, that's their the way they gain privilege, power, authority.
Parce que c'est comme ça qu'ils atteignent des privilèges, le pouvoir, l'autorité.
So it is a class interest, and it's natural to expect most intellectuals to pursue their class interest.
C'est donc un intérêt de classe, et donc il est naturel que la plupart des intellectuels suivent et poursuivent leur intérêt de classe.
There's a fringe of exceptions. It's not mechanical laws.
Bien sûr, ce ne sont pas des lois mécaniques. Il y a toujours des exceptions.
But it's a natural tendency.
Mais c'est une tendance naturelle.
And that means that the working classes have to produce their own intellectuals.
Ça veut donc dire que les classes ouvrières doivent produire leurs propres intellectuels.
And that's why they should be cultivating a high intellectual culture, as they have done in the past.
Et c'est pourquoi il faut cultiver et continuer à cultiver cette culture intellectuelle très élevée qui a existé dans le passé.
I mean, mass popular education, which actually was pioneered in the United States.
Par exemple, l'éducation populaire de masse, qui a connu vraiment ses débuts pionniers aux États-Unis.
I mean, one of its goals is to drive independence and creativity out of people's minds.
Un de ses buts était de sortir la créativité et l'indépendance d'esprit de l'esprit des gens.
And turn them into passive tools of management.
Pour les transformer en des outils passifs pour le manager.
But radical education, anarchist education, workers' education, strives for just the opposite.
Alors que l'éducation radicale, l'éducation syndicale, l'éducation libertaire vise exactement l'inverse.
It wants to create people, to help form children in the natural way, strengthening their instinctive desires for exploration, for creativity, for imagination, and for taking control of their lives.
Au contraire, encourager les jeunes et les enfants à développer leur créativité, leur réflexion, et surtout être en mesure de décider eux-mêmes de leur propre vie.
These should be pretty obvious ideas in France. This comes right out of the French Enlightenment.
Et c'était des idées qui devraient paraître plutôt évidentes en France, puisqu'elles sont directement issues des Lumières françaises.
And out of that can come the kinds of intellectuals who are needed for the struggle that you're rightly talking about.
Et c'est de là que pourraient sortir des intellectuels dont on a besoin justement pour ces combats, ces luttes qu'on mène.
On est
déboutés,
les gars.
France 2, 21 avril 2009.
La douche froide et la colère. Les salariés de Continental s'étaient installés à la sous-préfecture de Compiègne en attendant la décision de justice. Ils espéraient une suspension du plan social pour délit d'entrave. Le tribunal les a déboutés.
Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sarreguemines. La direction a gagné.
Ils passent d'un bureau à l'autre de la sous-préfecture et saccagent tout sur leur passage. Dépités, écœurés, ils repartent vers leur usine de Clairoy.
S'ils comprennent pas que ça fait 5 semaines qu'on se retient, qu'on est gentil, qu'on dit rien, aujourd'hui, c'est terminé. ils ont eu les moutons et maintenant ils ont les lions.
On y va. On y va.
Faites-vous plaisir.
Cette fois, c'est le bureau d'accueil de l'usine qui est mis à sac.
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Vous plaisantez, j'espère.
Je vous pose la question.
On ne regrette rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, à côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter là, faut arrêter.
Pour vous, la fin justifie les moyens.
Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir?
Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère. Et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe, dernière manifestation, qui dit, qui sème la misère, récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligées de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci, monsieur Mathieu.
On ne veut pas crever.
Xavier Mathieu, qui s'est illustré récemment, pas seulement lui, dans un conflit, presque banal aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle un plan social, c'est-à-dire un licenciement massif de salariés d'une entreprise. Il s'agit de Conti. Continental est devenu les Conti maintenant, on dit les Conti, comme si c'était une ethnie. Or, c'était une entreprise qui marchait plutôt bien, avec des salariés qui n'étaient pas trop malheureux. On leur a demandé à un moment, il y a des petites difficultés. Est-ce que vous ne voudriez pas un peu baisser vos prétentions? Ils ont dit, on va être gentils. Et puis, un an après, ils étaient tous dehors, une main devant, une main derrière. Et ils n'ont pas vraiment apprécié ça. Et ils se sont battus. Ils se sont battus même... a-t-on dit dans certains médias, violemment. Et Xavier Mathieu est allé loin là-dedans, lui et les autres, si bien qu'il est à deux doigts d'être condamné pour s'en être pris à des biens publics, en l'occurrence une certaine sous-préfecture. Voilà. Parmi ceux que nous avons invités aujourd'hui, il y a ceux qui connaissaient déjà Chomsky, il y a ceux qui ne connaissaient pas Chomsky, et c'est le cas de Xavier qui est en train de découvrir Chomsky. Voilà, on peut très bien arriver à être sur cette planète sans connaître Noam Chomsky. Voilà, Xavier, est-ce que tu peux exposer ton cas pour ta défense?
Ouais, ça va être...
Ça va pas être facile.
Non, ça va pas être facile. Non, mais j'avais l'habitude de fréquenter, je suis un rural, j'avais l'habitude de fréquenter plutôt les forêts, les cueillettes de champignons, les parties de pêche, donc c'est pas dans les endroits que j'aurais pu rencontrer Noam Chomsky, bien que, je ne sais pas, peut-être.
Il va aux champignons de temps en temps avec sa fille.
Oui, bah. Mais non, enfin moi je voudrais parler un peu de par rapport à la lutte, on parle tout le temps de vouloir changer la société. Et je pense que la société, elle est réellement pourrie, mais elle est pourrie de partout. Et je pense qu'avant de vouloir changer cette société, je pense qu'il faut déjà changer notre mode de lutte. Car on est rentré dans un système de lutte où on confie malheureusement notre peau à beaucoup de gens. On est un peu responsable. Je pense qu'on est un peu responsable d'une chose. C'est qu'on a tendance à vouloir élire des directions syndicales, d'élire des hommes politiques et après d'attendre tous d'eux. Et je pense que c'est l'erreur surtout à ne pas commettre, puisque je pense que la seule façon de ne pas vous faire vendre votre peau, c'est de la défendre vous-même et de ne la confier à strictement personne. Et je pense que... nous, chez nous... La lutte, elle a commencé dès le départ, où on a décidé de fabriquer ce qu'on appelait un comité de lutte, où on a fait une assemblée générale le premier jour, et on a dit aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de syndicats qui décideraient pour eux, il n'y aurait pas un syndicat qui représenterait 50% du personnel et qui signerait pour 50% du personnel. On a fabriqué un comité de lutte où on a réuni tout le monde. Tout le monde était invité, les syndiqués, les non-syndiqués, les syndicats, les non-syndicats. Et il a fallu, nous, les syndicats, nous rendre minables, puisque à partir du début de la lutte, on était plus que nous-mêmes. C'est-à-dire que ma voix à moi, CGT, qui représentait 35% des salariés, ne représentait pas plus que la voix des 1000 personnes qui étaient en Assemblée Générale. Et simplement dire que ce qui a été très dur, et ce qui est très dur, puisque depuis des années, les luttes sont de plus en plus rares, et je pense qu'il était très très dur, c'est de réussir à faire prendre conscience à la classe ouvrière de sa réelle force, parce qu'elle est énorme. La force de la classe ouvrière, contrairement à la classe dominante, c'est qu'elle est beaucoup, 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 beaucoup plus nombreuse. Et que demain, si on est 1000 dans la rue, c'est rien. Mais si on est 500 000, si on est 1 million, si on est 2 millions, les autres en face, ils ne mèneront pas large. Et voilà, je pense que les stratégies de lutte sont très importantes. On a aujourd'hui des directions syndicales, comme les hommes politiques, qui sont tout sauf indépendants. Puisque de toute façon, les directions syndicales ne peuvent pas vivre de leurs syndiqués. Et ils ne vivent uniquement de subventions d'État, donc ils sont redevables envers ces États. Donc il ne faut rien attendre ni des partis politiques, ni des syndicats, puisqu'ils sont de toute façon... Je pense que la lutte des Conti, elle a été mémorable par justement cette stratégie, puisque on a réussi à montrer aux ouvriers, à aider les ouvriers à relever la tête et prendre conscience de leur force. Et ce qui était vachement important, c'est que ça a été une démocratie monstrueuse. Je pense qu'il y a des ouvriers qui avaient envie de venir aux AG. Tous les jours, on a fait des assemblées générales. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le comité de lutte était formé à peu près de 80 personnes, où il était décidé, enfin pas décidé, des propositions, de motions. Et tous les après-midi, il y avait des assemblées générales à 14h, et tout se décidait en assemblée générale. Tout a été décidé en Assemblée Générale. Les Assemblées Générales ont été faites à l'extérieur de l'usine, devant la presse. Toute la presse était là à chaque Assemblée Générale. Je pense qu'il est temps de prendre conscience qu'on est peut-être aussi un peu responsable du sort qui nous est soumis aujourd'hui. On élit des gens et après on attend trop d'eux. Mais ces gens-là aussi, indirectement, on peut même presque penser que s'ils ne font rien, c'est parce qu'ils n'ont pas les gens qui ont voté pour eux derrière leur cul pour les pousser et les obliger à faire ce qu'ils font. Donc, moi, je voudrais reparler par rapport à la sous-préfecture. C'est 40 000 euros de dégâts. J'aurais dire que dans la même semaine ou disons qu'un mois plus tard, il y a un fameux ministre qui a pris un avion privé et ça a coûté trois fois le prix, c'est-à-dire 116 000 euros. Donc, je pense que c'est que de la broutille. Et je voudrais simplement poser la question à Chomsky et lui dire que est-ce qu'il considère notre façon de gérer notre lutte, est-ce qu'il considère ça comme de l'anarcho-syndicalisme?
Well, I think you're quite right in saying that delegating authority to union leaders is a path to capitulation.
Je crois que vous avez raison en disant que déléguer le pouvoir aux élus syndicaux est une manière de capituler.
And the individual actions that you're describing, I think, are admirable actions.
Et ce que vous décrivez comme actions qui ont été mises en place, je trouve ça admirable.
But if they're going to have a long-term impact, they're going to have to take an organized form.
Mais si on veut avoir un impact à long terme, il faudra d'une manière ou d'une autre trouver une forme organisée à cela.
Individual actions, however admirable, are not going to change the world.
Parce que des actions individuelles, fût-elles admirables, ne vont pas changer le monde.
So the question is, what kind of organized form should they take?
Donc la question est, quelle forme d'organisation doivent-elles prendre?
Well, I agree with you. They shouldn't take the organized form of a union that where workers delegate authority to the leaders and then wait to be told what to do.
Et je suis d'accord avec vous pour dire que ça ne devrait pas être justement des travailleurs, des ouvriers qui délèguent leur autorité à un leader qui leur dirait ce qu'il faut faire après.
But there also can be democratic unions.
Mais si peut y avoir des syndicats démocratiques.
Where the participants make the decisions.
Où les participants sont ceux qui prennent les décisions.
They may delegate responsibility to implement them, but if they don't like the way their representative is acting, they just get rid of them.
Et donc forcément on délègue des représentants, mais si on n'aime pas la manière dont ils se comportent, ils dégagent.
And in fact, there are some unions like that.
Et en fait, il y a des syndicats comme ça.
Actually, the IWW is one example.
En fait, l'IWW en est un.
But there's a much more important example.
Il y a des exemples plus importants aussi.
One aspect of memory that should be preserved is that this year, the CNT in Spain is celebrating its centenary.
Et par exemple, un souvenir qu'on va représenter à l'esprit, c'est que cette année, la CNT fête son centenaire en Espagne.
And you know they are responsible for one of the really great moments of in working class history.
Et qui est à l'origine est responsable d'un des grands mouvements de l'histoire de la classe ouvrière.
The 1936 anarchist revolution.
Avec la révolution anarchiste de 1936 en Espagne.
So I mean these, there are models of democratic unions which have been pretty successful.
Donc il y a eu des modèles assez réussis d'organisations syndicales démocratiques.
And I think those are the kinds of organizational forms that should meet the conditions that you're describing, which I think are the right conditions.
Et je pense que ce que vous décrivez, les conditions que vous décrivez, c'est celles-ci qui devraient être atteintes. Je crois que c'est les bons objectifs et les bonnes méthodes.
But they can carry out continued actions, not just one spectacular action where individuals behave heroically, but continued actions where you learn from one experience, go on to the next one, do it better next time, integrate with others.
Et je pense qu'il faudrait justement avoir une action continue plutôt que des individus qui se comportent d'une manière héroïque ponctuellement, c'est de passer d'une à l'autre et apprendre à chaque fois et s'enrichir à chaque fois de ces différentes luttes menées à la suite.
And in fact go on to become real international unions of the kind that somebody was talking about over there.
Et comme ça arriver peut-être justement à ce dont parlait Annie Coupé, de faire un vrai syndicat international.
But a large part of this is a theme that's come up several times, recovering and preserving the real history that is needed by people who are struggling for freedom and justice.
Et ça passe par justement l'idée de récupérer, de conserver cette histoire qui est utile à ceux qui se battent pour une véritable justice sociale, liberté.
And there are things that can be done.
Et il y a des choses qui peuvent être faites.
Old friend of mine, Howard Zinn, died a few months ago.
Un vieil ami à moi, Howard Zinn, qui est mort il y a quelques mois de ça.
About 30 years ago, he wrote a book. It's called People's History of the United States.
Il y a 30 ans de ça, il écrit un livre qui s'appelait L'histoire populaire des États-Unis.
Which in fact captures the authentic history of working people, women, slaves, Native Americans.
Et qui vraiment saisit l'histoire des luttes des originaires des Indiens d'Amérique, des esclaves, des femmes, des ouvriers.
What he calls those countless unknown people whose actions create the great events that later enter history.
C'est tous ces héros innombrables et inconnus qui ont fait l'histoire des États-Unis.
And a large part of it is forgotten working class history, actually suppressed working class history.
Et ça passait aussi beaucoup de ça par en faire revivre toute l'histoire ouvrière, industrielle, qui a été non seulement oubliée, mais plus précisément effacée.
Well, that book has changed the conscience of a generation in the United States.
Et ce livre de Howard Zinn a vraiment changé toute la conscience de toute une génération aux États-Unis.
And I think there probably ought to be a people's history of France.
Et j'imagine, je pense qu'il devrait y avoir aussi une histoire populaire de la France, l'histoire du peuple de France.
Which can do the same kind of things for your history.
Qui pourrait faire la même chose pour votre histoire.
And that can be a major instrument in liberation and struggle.
Et ça peut être un instrument, un outil très important pour les luttes et pour la libération.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
On va finir ce tour de table avec Dominique Malvaux, qui est syndicaliste à Sudrail, c'est-à-dire le syndicat de la SNCF, et qui s'était illustré, enfin Sudrail en tout cas, lors des conflits du CPE, c'est ça, Dominique, en inspirant des bons reportages sur les usagers en colère. Voilà. Dominique Malvaux, est-ce que vous pouvez, vous, à votre tour, vous faire quelque chose pour votre défense?
Et si je vous dis qu'en plus, c'est la gare Saint-Lazare, et que c'est donc ma gare, et c'est nous qui avons fermé la gare pendant une journée, vous allez voir combien les usagers nous adorent. Ma question à Noam Chomsky, elle va être un petit peu sur la réflexion qu'on a eue, nous, en tant que syndicalistes, par rapport à un conflit, alors qui, pour le coup, n'est pas du tout lié au train en tant que tel, mais lié par contre à la corporation des cheminots. Et donc ma question traitera du corporatisme d'une certaine façon. Mais d'abord, ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'il y a maintenant un an, nous nous sommes aperçus que des collègues de travail qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, donc dans les enceintes du chemin de fer, étaient en fait des travailleurs sans papier, qui étaient, en plus étaient embauchés au noir. C'est-à-dire travaillaient pour la SNCF, mais pour des entreprises sous-traitantes, etc., et travaillaient au noir. Quand on s'est rendu compte de ça, bien sûr, on a essayé de réagir en tant que syndicaliste. Et nous avons cherché à comment mobiliser autour de ces travailleurs sans papier. En sachant qu'on le voit aujourd'hui, je vous invite, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse pour inviter tout le monde à aller à la place de la Bastille pour l'instant, parce que les travailleurs sans papier l'occupent et c'est très dur. En tout cas,
sur les marges de l'Opéra de la Bastille.
Sur les marges de l'Opéra de la Bastille. Nous sommes trouvés confrontés à l'époque à comment organiser la lutte de façon à ce que ce ne soit pas seulement une lutte de quelques travailleurs sans papier, mais que ça soit la lutte des cheminots. Et notre réflexion nous a porté à dire que, au lieu de défendre seulement des intérêts de ces travailleurs sans papier, on les a présentés comme étant des cheminots. C'est-à-dire que nous sommes appuyés sur le fort sentiment corporatiste des cheminots. En effet, on est connu pour arrêter les trains, on est connu pour mener des batailles importantes parce qu'on s'appuie sur un fort sentiment de solidarité dans l'entreprise et qui est lié à une approche assez forte à notre métier et donc à notre corporation. Souvent, et d'ailleurs Daniel l'a présenté en début, on a présenté des syndicalistes non corporatistes. Eh bien nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce corporatisme avec ses défauts, mais aussi ses qualités pour mener et organiser la lutte. Et donc on a appuyé et on a réussi à mettre des cheminots qui n'étaient pas spécialement antiracistes, des cheminots qui n'avaient pas très bien compris d'ailleurs ce que faisaient ces gens qui volaient leur métier, parce que ces travailleurs sous-traitants en fait volaient des métiers de cheminots, étaient perçus comme ça par les collègues. Nous avons réussi à mettre les cheminots en branle derrière ces travailleurs sans papier parce qu'on les a présentés comme des cheminots, c'est-à-dire comme appartenant à notre corporation. On a utilisé ce sentiment corporatiste comme étant un sentiment de lutte et de solidarité interne à l'entreprise. Et ma question à Adam Chomsky, c'est, avons-nous raison d'utiliser ça? Quelle réflexion, si réflexion il a eu sur le corporatisme? Et voilà, j'attends sa réponse.
Is it right? Super right. It's exactly what should be done.
C'est exactement ce qui doit être fait.
I mean, the idea of an illegal person is a complete obscenity.
Mais l'idée même d'une personne illégale est quelque chose d'absolument obscène.
People can't be illegal.
Les gens ne peuvent pas être illégaux.
They have human rights.
Ils ont des droits humains.
And they have the same rights as anyone else.
Et les mêmes droits que n'importe qui d'autre.
The state and the capitalist classes and the intellectual classes.
L'État, la classe intellectuelle et la classe capitaliste.
Are constantly trying to divide people from one another.
Sont sans cesse en train d'essayer de diviser les gens les uns des autres.
And make them hate each other.
Pour qu'ils se détestent les uns les autres.
Because their main concern, their main fear is solidarity and unity.
Parce que leur principale crainte, justement, c'est de voir l'unité et la solidarité.
And one of the devices to do this is to call some people illegal.
Et le moyen de diviser comme ça, c'est de dire que vous êtes des illégaux.
And then to try to encourage the legal people to fear the illegal people because they're taking away our jobs.
Et après, c'est d'encourager ceux qui sont légaux d'avoir peur de ceux qui sont illégaux parce qu'ils sont là pour prendre votre boulot.
And that has to be resisted the same way that efforts to divide people by race have to be resisted.
Et ça doit être, on doit résister à ça de la même manière qu'on doit résister aux efforts qui sont faits pour diviser les gens en race.
And this is an important opportunity to educate people about much more general issues.
Et c'est à partir de là, c'est une opportunité aussi pour éduquer les gens sur des questions beaucoup plus générales en partant de là.
So why are people from North and West Africa coming to France instead of the other way around?
Pourquoi les gens d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest viennent en France et pas l'inverse?
We all know the answers.
On connaît tous la réponse, bien sûr.
Centuries of vicious French imperialism.
Des siècles d'impérialisme français pervers.
In the United States, why are people coming from Mexico and Central America to the United States, where they're classed as illegal and deported?
Et pourquoi, pareil aux États-Unis, des immigrants viennent d'Amérique centrale et du Mexique, où après ils sont considérés comme illégaux et renvoyés?
It's the same thing. People are fleeing from Central America because in the 1980s, Ronald Reagan's terrorist wars devastated Central America.
Ils quittent l'Amérique centrale parce que pendant les années 80, la guerre menée par Ronald Reagan a complètement ravagé leur pays.
Right where I live, actually, my same daughter works with Mayan illegal immigrants.
Ma fille, par exemple, travaille avec des travailleurs sans papiers qui travaillent dans les mines.
They were victims of true genocide in the 1980s.
Ils ont été victimes de ce qu'on peut appeler un génocide dans les années 80.
So they're fleeing from the wreckage and trying to cross the border to the United States where they can survive.
Ils fuient le chaos en essayant de traverser la frontière des États-Unis pour y survivre.
One of the women that my daughter happens to be working with is she was a pregnant woman who crossed the border 6 times. Pregnant. Crossing the border means going through 30 miles of desert with no water, you know.
Et une des femmes avec laquelle ma fille travaille est une femme enceinte et à 6 reprises a essayé de passer la frontière clandestinement. Et passer la frontière clandestinement aux États-Unis, ça veut dire faire plus de 40 km dans le désert sans eau.
Each time she was picked up by the border police and thrown back into Mexico.
Et chaque fois, elle a été attrapée par la police des frontières et reconduite au Mexique.
The 7th time she managed to make it with the help of solidarity workers in the United States.
Et la 7e reprise, elle y a réussi avec l'aide de travailleurs solidaires aux États-Unis.
She just had a baby 2 days ago. So.
Elle a accouché il y a 2 jours.
I mean, the idea that she's illegal is beyond obscenity.
Mais dire que cette femme est illégale, c'est plus qu'obscène.
These relations between North and South are very well understood by the leadership.
Et ces relations entre le Nord et le Sud sont très très bien perçues par les leaders.
Take the United States again. The border between the United States and Mexico, like most borders, was formed by violence.
Prenons l'exemple des États-Unis. La frontière entre les États-Unis et le Mexique, comme la plupart des frontières d'ailleurs, a été tracée par la violence.
The United States conquered half of Mexico.
Les États-Unis ont conquis la moitié du Mexique.
That's why you have cities like San Francisco and San Diego.
Et c'est pour ça qu'il y a des villes aux États-Unis qui s'appellent San Francisco, San Diego,
with Spanish names.
Avec des noms espagnols. Yeah,
conquered Mexico, so the Spanish names.
Parce que ça a été conquis sur le Mexique.
It was a pretty open border. The same kind of people lived on both sides, and they crossed the border to visit their relatives.
C'était une frontière très ouverte parce que les gens vivaient d'un côté et de l'autre et la traversaient pour se retrouver.
In 1994, Bill Clinton began to militarize the border.
En 1994, Bill Clinton a commencé à militariser cette frontière sud des États-Unis.
Why 1994?
Et pourquoi à cette date-là?
1994 was the year in which Clinton rammed through the North American Free Trade Agreement, NAFTA, over the opposition of the public.
Et c'est ce que c'est cette année-là que Bill Clinton a fait voter les accords de libre-échange nord-américains contre la volonté du peuple.
Planners understood very well that this agreement, not an agreement, this treaty was going to destroy Mexican agriculture and Mexican business.
Et les gens ont très bien compris que ce traité de libre-échange allait détruire les commerces et l'agriculture du Mexique.
For example, Mexican farmers cannot possibly compete with U.S. agribusiness that gets a large part of its profit from state subsidies.
Par exemple, les paysans et mexicains ne peuvent absolument pas jouer dans la même catégorie que les grandes agrobusiness américains qui tirent une grande partie de leurs profits via des subventions de l'État américain.
So they knew that it was going to have a very harmful effect on Mexican campesinos and working people, and that they would begin to flee across the border.
Donc, en signant ces accords, ils savaient très bien qu'il y aurait des conséquences sur les paysans mexicains qui, du coup, chercheraient à traverser la frontière pour tenter leur vie ailleurs.
So therefore, we have to militarize the border, create all kind of hysterical propaganda about illegal people, and so on.
Et c'est pour ça qu'en la même année, on a militarisé la frontière et fait parler toute cette propagande hystérique sur la menace que représentaient ces immigrés clandestins.
And there's something comparable here.
Et il y a quelque chose d'assez comparable qui se passe ici aussi.
Well, these are more battles that have to be fought, including remembering history.
Et c'est donc des batailles qui doivent être combattues, toujours en ayant présent à l'esprit l'histoire.
Remembering why Africans are fleeing here and French aren't fleeing to Africa.
Se rappeler pourquoi les Africains viennent ici et non pas les Français qui vont en Afrique.
And these are very real issues.
Et ce sont des questions vraiment importantes.
If you go back to, say, the 1860s.
Revenons en arrière, par exemple, vers 1860.
West Africa was approximately in the same state of development as Japan.
L'Afrique de l'Ouest était à peu près au même niveau de développement que le Japon à cette époque-là.
There was one fundamental difference.
Il y avait juste une différence essentielle.
Japan wasn't colonized.
Le Japon n'a pas été colonisé.
It had its sovereignty.
Il avait sa propre souveraineté.
It could therefore undertake the kinds of development that were in fact taken by the European powers and the United States.
Il pouvait donc entreprendre les développements qui ont été, par exemple, faits par les puissances européennes en Amérique.
It takes an impressive amount of blindness not to notice that the one country of the South that became an advanced industrial society, Japan, is the one country of the South that wasn't colonized.
Il faut quand même être aveugle pour pas s'apercevoir que le pays dans le sud qui a connu la croissance et la prospérité économique était le pays qui n'a pas été colonisé par les puissances occidentales.
Effect of Western imperialism, which enriched the Western countries, has led to a situation where people have to flee from the disaster, and then we declare that they're illegal.
C'est l'impérialisme occidental qui a enrichi les nations occidentales et qui fait dire aujourd'hui que ces gens qui fuient leur pays sont des clandestins.
Well, this is more of the suppressed history that ought to be in everybody's consciousness.
Voilà encore un exemple de l'histoire occultée qui doit être présente dans les consciences de chacun.
And the concept of illegal people should be, you know, barred from civilized discourse.
Et le concept même de gens, de personnes, d'individus illégaux devrait être barré, biffé de tout discours civilisé.
Voilà. Merci. Une toute dernière question, ce sera la mienne, si vous permettez. Noam Chomsky a toujours l'habitude de finir ses rencontres avec un mot encourageant, un mot d'espoir. Mais on sait bien que pour être vivante, l'action sociale, politique et en l'occurrence syndicale, ce qui est un peu la même chose, a besoin d'une vision d'une société future qui repose sur des projets et des grandes valeurs. Chomsky, dans ses écrits récents, remarque comment l'espérance s'est évanouie. On ne croirait pas quand on entend nos amis ici, mais c'est quand même un peu la tonalité générale. Donc je lui demanderais, pour finir, de nous dire, d'évoquer ce que pourraient être les valeurs de cette société future, des valeurs communes.
Well, the primary shared value, I think, should be what has always been at the heart of the anarchist tradition.
La première valeur essentielle à partager, c'est celle qui a toujours été au cœur même de la tradition anarchiste.
If there is any form of hierarchy, domination and authority, whether it's in a family or international affairs, it has to be justified.
S'il y a la moindre forme d'autorité, de hiérarchie de l'un sur les autres, que ce soit dans le sein d'une famille, dans une société ou entre sociétés, il faut qu'elle soit justifiée.
Sometimes it can be justified.
Parfois, ça peut être justifié.
So if I'm walking with my granddaughter in the street, and three-year-old granddaughter, and she runs out into the street, and I grab her arm and pull her back, that's authority, but I think it can be justified.
Par exemple, si je me balade avec ma petite fille de 3 ans dans la rue et qu'elle court au milieu des voitures et que je l'attrape par la main pour la retenir, c'est une forme d'autorité, mais qui est, je le crois, justifiée.
But the burden of proof is always on those who claim the right of authority and domination.
Mais le poids de la preuve est toujours du côté de ceux qui se donnent le droit de l'autorité. C'est à eux de le prouver qu'elle est justifiée.
And they can very rarely do it.
Et ils peuvent très rarement le faire, justifier leur autorité.
And when they can't do it, the structure of authority and domination ought to be dismantled.
Et quand ils ne peuvent pas le faire, alors ces structures d'autorité et de hiérarchie doivent être démantelées.
Well, that's the path towards a society of freedom and justice and self-fulfillment and controlling our own fate.
Et voilà le chemin, la voie tracée pour une société de justice et aussi de prendre en main son propre sort et de se réaliser soi-même.
And that can mean worker self-management in factories.
Ça peut être donc les ouvriers qui se dirigent eux-mêmes dans les usines.
Can mean community control by democratic community councils.
Des communautés qui sont dirigées par des conseils démocratiques de la communauté.
Can mean family structures that are not based on patriarchal power and hierarchy.
C'est-à-dire des structures familiales qui ne soient pas uniquement basées sur le patriarcat et le pouvoir du père.
And international structures based on solidarity, federalism, other forms of self-organization and self-management.
Et des organisations internationales qui soient basées juste sur la solidarité et le soutien mutuel.
I mean, one can proceed to try to spell out the structures of a future society in more detail.
On pourrait bien sûr se donner la peine d'essayer de détailler les structures d'une société meilleure plus en détail.
I'm personally a little skeptical about those enterprises.
Mais je suis un peu sceptique personnellement sur toutes ces entreprises.
I think there's a lot to learn.
Il y a beaucoup de choses à apprendre, je crois.
About how a human society ought to be organized in a decent way.
Sur comment devrait s'organiser les sociétés humaines d'une manière décente.
So there has to be a lot of experiment and exploration. Many different paths can be tried.
Donc le mieux c'est de l'expérimentation et d'essayer plein de chemins différents.
But I think that values like these, which again are at the heart of the anarchist tradition, are the right kind of values to uphold and try to fulfill in our actions.
Mais je crois que ces valeurs qui, je le répète, sont au cœur de la pensée anarchiste, sont ces valeurs qui peuvent nous permettre de tenir bon et d'aller de l'avant.
Merci. Merci à Annick Coupé, Agathe Martin, Xavier Mathieu, Dominique Malveau, Philippe Julien et Noam Chomsky, traduction de Guy Van Til. Merci à toute l'équipe des Mutins de Pangée. Puis je rappelle la projection de Chomsky et compagnie ce mardi soir à 20h30 au cinéma Les Sept Parnassiens à Paris, 98 boulevard Montparnasse dans le 14e arrondissement. Pour trouver toutes les informations sur l'émission et sur la venue de Chomsky sur le site de France Inter à la Wake, émission là-bas si j'y suis, vous pouvez également retrouver ces émissions sur là-bas.org. La technique aujourd'hui, Thibaut Deschamps et Elisabeth Collet. C'est Coy Nguyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot. Et Céline Rouget attend vos messages et vos réactions, coups de gueule et coups de cœur sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.